Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, la semaine dernière, nous étions avec Alem sur Garcia, qui nous parlait de son livre « Les Orients d'Occitanie » et de la série de conférences qu'il donne sur cette dimension de l'Occitanie, dimension orientale. Nous reviendrons d'ailleurs très prochainement avec Alem sur Garcia, et nous développerons le deuxième volet de ce cycle de conférences sur les méridionaux, ces indigènes du Midi. Et ce soir, nous allons rester dans ce sujet de l'Occitanie, puisque nous avons le plaisir, la chance, l'honneur d'avoir avec nous ce soir Marie-Jeanne Verny. Marie-Jeanne Verny, bonsoir.
Bonjour, l'honneur est pour moi.
Alors, Marie-Jeanne Verny, elle est professeure des universités à l'université Paul-Valéry de Montpellier 3. Elle est membre de l'équipe d'accueil Langue, Littérature, Arts et Culture des Suds et elle étudie principalement la littérature occitane contemporaine, notamment les écrits de Roland Pécoute, Robert Allan et Max Rouquette. Elle s'intéresse aussi à la sociolinguistique et à la didactique de l'occitan. Alors, ce soir, nous allons parler d'un livre dont nous avons déjà parlé d'ailleurs ici à cette radio. C'est Les Troubadours dans le texte occitan du XXe siècle, donc publié chez les classiques Garnier, études et textes occitans, et sous la direction de Marie-Jeanne Verny. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un beau volume, un très gros volume d'ailleurs, hein, il y a plus de 400 pages. Dans la renaissance de la littérature occitane au XXe siècle, des troubadours sont souvent invoqués par les plus grands écrivains, comme René Nelly, comme Max Rouquette, Robert Laffont, Jean Boudou, mais aussi bien d'autres, comme des images d'un âge d'or où la langue et la littérature doc fournissaient des modèles à l'Europe. Alors ce livre s'intéresse à la place de ces grands anciens dans l'imaginaire des créateurs, et la chanson est également étudiée, n'en parlerons pas ce soir, et entre modèles idéalisés, figures recomposées sur un monde romanesque, imitation des formes et motifs, et aussi distance critique ou refus d'assumer un tel héritage, on verra qu'il y a les deux, on trouvera ici, dans ce livre, une première ébauche synthétique de la réception contemporaine des troubadours. Voilà ce que nous pouvons lire en quatrième de couverture de cet ouvrage. Alors, Marie-Jeanne Verny, je suppose que ça a été quand même un gros travail de pouvoir réunir l'ensemble de ces études qui composent ce livre.
Alors déjà, je voudrais situer l'entreprise dans son contexte.
Oui.
Il s'agit d'un ensemble de colloques et de livres qui ont donné suite, qu'a dirigé notre collègue de Toulouse, Jean-François Courreau, avec d'autres collègues occitanistes. L'idée, c'était de voir comment les troubadours ont persisté dans la mémoire et dans la création après leur âge d'or, qui était celui du 11e-12e siècle. Et donc de voir un petit peu ce qu'on disait des troubadours au 15e, ce qu'on en disait au 18e. Et pour ma part, je me suis occupée de leur image dans le texte du 20e siècle. Je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plutôt spécialiste de la littérature contemporaine. Et dans mes recherches, depuis que je travaille dessus, je ne cessais de rencontrer les troubadours. Et quand Jean-François Courreau a eu cette idée de cette série de colloques, j'ai dit je vais bien m'occuper pour ma part de travailler sur l'image qu'ont les troubadours dans la littérature occitane du XXe siècle. Alors ensuite, quand on fait un colloque, eh bien on cherche des collaborateurs, on ne peut pas tout traiter soi-même. Si. Donc j'ai fait appel à des collègues. Il faut rendre justice à eux, puisque je ne suis que... Bon, j'ai bien sûr fait un article dedans, et j'ai un petit peu... J'ai tout corrigé, j'ai tout revu, mais il y a une vingtaine de collègues, pas seulement français d'ailleurs, il y a une collègue italienne, par exemple, qui est intervenue, Roberta Capelli, donc il y a une vingtaine de collègues qui ont apporté leur concours à l'entreprise. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu ce que les spécialistes de tel ou tel écrivain avaient découvert sur la place des troubadours dans l'œuvre de tel ou tel écrivain. Alors donc, il y a eu premièrement un colloque à Montpellier, qui a réuni ses collègues, colloque au cours duquel nous avons eu l'honneur d'avoir Pierre Beck, qui malheureusement nous a quittés l'an dernier, et qui était présent, et bon, au cours duquel les intervenants ont présenté les troubadours dans telle ou telle œuvre littéraire. Et puis ensuite, il y a eu un gros travail pour assembler les textes écrits, les corriger, les harmoniser. Bon, voilà, le travail d'édition normal d'un corpus d'articles de colloque.
Alors, on a une mine là, maintenant, quand même, de renseignements. Je trouve que c'est terriblement important d'avoir ce rassemblement de toutes ces études, ces articles là-dessus. Oui. Et en particulier, pour l'ensemble, je dirais, des personnes, auteurs ou pas, qui s'intéressent à la poésie contemporaine.
Oui.
Parce que, où qu'on aille dans le monde, et je l'ai vérifié, par exemple, bon, en Catalogne, bien entendu, là, c'est assez facile, quand on parle à Barcelone des troubadours, il y a une oreille très très attentive, hein. Mm-hmm. Mais pas que, également dans le Maghreb, il y a aussi une oreille très attentive sur les troubadours. Je veux dire que c'est quelque chose qui évoque, quelque chose d'important. C'est-à-dire que la littérature, et notamment aux États-Unis, quand on parle des troubadours, les gens savent de quoi on parle.
C'est peut-être en France, hein, finalement.
Alors oui,
qu'on
tout
est
à
le
fait.
Plus sourd
absolument.
Et aveugle.
Oui, c'est curieux. Mais ce n'est pas. Oui, c'est pas impossible. Oui.
Ah, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Pour avoir assisté à des stages de formation d'enseignants quand j'étais encore dans le second degré, sur le Moyen Âge. Hein. Bon, je suis professeur de lettres françaises aussi. Eh bien, le collègue moyen. Le troubadour, pour lui, c'est une espèce de petit hippie du Moyen-Âge qui va de château en château faire la manche en chantant, en poussant la chansonnette. Il y a une ignorance épouvantable en France des troubadours. J'ai fait, il y a une vingtaine d'années, un article sur la place de l'Occitan dans les manuels de littérature française en France. Sidérant, les gens ne savent pas. Alors que, comme vous le disiez, à Barcelone, moi je suis allée à Santiago de Compostelle, dans un lycée galicien, en seconde, les gamins, dans leur livre de littérature galliègue, ils avaient les troubadours. Donc, ils sont connus ailleurs, mais chez nous, je pense qu'il y avait encore un travail à faire.
Alors, je crois que ce travail est en route.
Oui.
D'abord, avec des livres comme celui que vous avez publié, ce rassemblement-là. Mais également les romanciers. Michel Cozem, par exemple, vient de rééditer, c'est d'ailleurs que ça s'est bien vendu, puisque c'est la deuxième édition, un livre sur Peyre Vidal, bon, qui est un roman, mais qui retrace quand même la vie un peu folle. Francis Pornon va éditer au mois de mars un livre sur Ramon de Miraval, sur lequel avait travaillé René Nelly, par exemple. Et donc, ces livres, il faut les porter parce que c'est ce qui va permettre de retrouver un peu cet ancrage qui est important quand même pour notre littérature et notre culture occitane. Hein. C'est quand même ce qui sous-tend la culture occitane, hein, les troubadours. Et donc c'est bien qu'il y ait des romans comme ça qui reprennent quand même la vie, certes romancée, mais bon, l'histoire de ces personnages, c'est vrai, qui étaient aussi des aventuriers, des troubadours. Alors il y a également aussi le phénomène du rapprochement de la Catalogne et de l'Occitanie. Alors, un rapprochement qui, dans notre région, maintenant Toulouse, Montpellier, nous faisons partie de la même région. Il y a longtemps qu'on savait que nous étions dans une région plus vaste qui s'appelle l'Occitanie. Et vous le savez, nous souhaitons ardemment, nous ici, que cette région s'appelle, bien entendu, Occitanie. Hein.
Je peux mettre un bémol
Oui, absolument.
Je peux mettre un petit bémol. Je suis auvergnate.
Oui.
D'accord. Et ça me dérangerait vraiment qu'on exclue d'Occitanie les régions qui ne sont pas langue d'Occitanie.
Voilà, voilà.
Voilà.
Mais que, alors, faire, voilà.
Eh ben, que faire trouver, mettre un adjectif central ou du sud, oui, et compagnie. Oui, oui. Mais il ne faut surtout pas exclure de l'Occitanie les régions périphériques qui en font partie aussi.
Oui. Et la Provence.
Moi, je suis auvergnate et profondément occitane.
Oui.
Voilà. Je mets juste ce petit bémol-là parce que ça me paraîtrait appauvrir ce qu'est l'espace occitan qui
c'est
est beaucoup plus large que,
oui, oui,
que le Languedoc.
Et puis, c'est la Provence aussi qui fait partie.
Et c'est la Provence. Et certains en Provence seraient trop contents qu'on se replie de l'autre côté du Rhône.
C'est vrai. C'est vrai. Bon, le problème n'est pas simple.
On est loin des troubadours, là.
Oui. Alors, je parlais ça pour la Catalogne, pour dire vraiment combien cette fraternité Catalogne, donc occitane, est forte. La semaine dernière, elle est venue à Toulouse pour ce qu'on appelle, nous, la Messaudière. Qui est un repas qui réunit les responsables de la convergence occitane à Toulouse. Et donc nous avions le responsable culturel de la Catalogne qui est venu nous parler des difficultés actuelles et des rapprochements de nos cultures catalanes. Et je crois que on est de nouveau dans une époque où ce rapprochement me semble très très fort. Et si l'on reprend votre livre pour Max Rouquette, Max Rouquette, en 1952, parlait déjà de ces personnalités catalanes.
Oui.
Et vous citez même...
Avant, là, c'est pas, bon, dans ce livre, je parle de 52 parce que, comme les Catalans souffraient du franquisme et qu'ils étaient exilés, les jeux floraux se passaient pas forcément, ne pouvaient pas se passer en Espagne, et Max Rouquette les accueillait, les avait toujours accueillis. Oui. Mais Max Rouquette avait organisé à Montpellier, après la rétirade, une espèce de comité d'accueil des Catalans intellectuels exilés. Donc la fraternité avec les Catalans, il l'a toujours éprouvé. Et dans le texte auquel vous faites allusion, c'est vrai qu'il salue les Catalans et il rappelle le rôle des troubadours. Et ce rôle-là, il dit, si vous permettez que je le cite,
« Autant
que la lingua doc signoreggia, et que l'ouverbe doc tenie per lus peuple une linda significatio de courtesie et de civilisation entre Barcelona, Toulouse et Montpellier, et vieux Pascal des Pyrénées. Autant la lingua doc régnait et que le verbe doc avait pour les peuples une signification limpide de courtoisie et de civilisation, entre Barcelone, Toulouse et Montpellier, il n'y avait pas de Pyrénées. » Voilà, donc je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion, effectivement.
Voilà.
Oui.
Et c'est toujours vrai, et il faut que ce soit de plus en plus vrai. Alors, on peut commencer par Max Rouquette. Alors, ce livre, donc, s'articule, l'idée de ce livre, c'est de rechercher quelle est la descendance des troubadours sur les créateurs contemporains.
Tout à fait, oui.
Très intéressant. Il y a, bien sûr, toute l'œuvre de Nelly, sur l'érotique des troubadours, qui a été quand même le grand livre sur les troubadours. Je me souviens de Castan qui citait ce livre comme le chef-d'œuvre de la littérature du XXe siècle.
Bon, alors, là aussi, pour moi, des chefs-d'œuvre, j'arrive pas à faire des hiérarchies. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, Nelly a été un de ceux qui ont travaillé sur les troubadours et qui, en même temps, ont écrit une œuvre contemporaine. Parmi les écrivains sur lesquels on a travaillé, il y en a comme lui, qui sont à la fois créateurs inspirés par les troubadours et critiques des troubadours. C'est le cas de Nelly, c'est le cas de Robert Laffont, c'est le cas de Pierre Beck. Dans ces cas-là, il y a une espèce de correspondance entre leur travail de critique et leur travail de créateur. Les deux choses sont totalement différentes. Hein. Quand ils créent, ils ont une autonomie de création. Mais quand ils créent, ils ont ce savoir extrêmement précis sur l'érotique, mais pas seulement, sur le texte des troubadours. Et effectivement, c'est le cas de Nelly. Ce n'était pas le cas de Max Rouquette. Max Rouquette n'est pas un critique, Max Rouquette n'est pas un historien de la littérature, il est simplement auteur, et simplement, il connaissait les troubadours, ce que la doxa cultivée connaissait en son temps. Des troubadours et du Moyen-Âge, parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est que le Moyen-Âge occitan est parfois un petit peu idéalisé. Il y a une certaine confusion entre une filiation de la noblesse, avec ses valeurs effectivement nobles, et le peuple en général. Pour moi, c'est un petit peu idéalisé, dans la mesure où j'imagine que les femmes du peuple avaient droit au droit de cuissage en Occitanie comme dans le Nord. Simplement, cette image du Moyen-Âge, elle continue à courir, toutes ces grandes idées, presse, courtoisie, etc. Et Max Rouquette en savait un peu plus que la moyenne. Il avait une connaissance, il avait lu, par exemple, une des choses qu'il avait bien lues, c'est les Bidos des Troubadours. Et il les avait bien lues, il les avait lues dans une édition savante. Les Bides, pour nos auditeurs, c'est cette chronique médiévale qui raconte la vie des troubadours romancés, inspirée de la réalité historique quand il y en avait une, mais qui est quand même une fiction littéraire. Et donc ces Bidos ont été publiés et édités de manière savante au XIXe siècle, et Max Rouquette, quand il s'en inspire, il a vraiment travaillé. Je suis allé retrouver les éditions savantes. Ce qu'il écrit n'est pas une invention, mais il l'appelle Chronique légendaire des troubadours. Chronique légendaire des troubadours. Ça veut dire qu'il crée un espèce de roman sur le roman, comme ce que vous disiez tout à l'heure de Francis Pendant, c'est ça, et le deuxième c'était Cossem.
Michel Cossem. Oui.
Voilà, c'est un petit peu ce que fait Max. Parce que, à partir de la connaissance précise qu'il a du texte et des vies des troubadours, il est avant tout écrivain, donc il va broder. Il va broder et il va en faire un sujet romanesque. Par exemple, il a une nouvelle qui est très très jolie, où il imagine que Bertrand de Borne, le troubadour de la guerre, et Ventadour, le troubadour de l'amour, se rencontrent dans un monastère où ils étaient tous les deux, à Dallonne, en Limousin, et vérification en faite, ils sont allés tous les deux à Dallonne, pas à la même époque. Donc Max imagine qu'ils se rencontrent et qu'ils sont devenus moines, pénitents, ils n'ont pas le droit de parler puisque leur ordre est soumis au silence, et au lieu de se parler, ils se récitent des textes. C'est une très très belle nouvelle qui évoque les deux troubadours, mais romancée par un fabuleux prosateur du XXe siècle.
C'est de la littérature.
Dans ce cas-là, pardon ?
C'est de la littérature, c'est de l'excellente
littérature. C'est de la littérature, absolument.
Oui.
Absolument. Une littérature faite par quelqu'un de cultivé,
oui.
Mais c'est de la littérature. Et en même temps, c'est très juste parce que au fil des lignes, on découvre des phrases, des vers de tel ou tel poète, mais qui sont habilement mêlés avec le texte de Max. Alors, le lecteur cultivé reconnaît ça et là telle ou telle citation, mais c'est un espèce de jeu auquel se livre Max Rouquette, de connivence avec le lecteur cultivé. Et je trouve ça très agréable à lire. Très agréable à lire, et à la fois avec cette double lecture, le lecteur cultivé a le plaisir de la reconnaissance du texte des troubadours, le lecteur qui ne connaîtrait pas en détail...
Reconnaître, oui.
Voilà, il connaîtra ou il connaîtra pas, mais en tout cas, il lira une belle histoire.
Voilà,
oui, il lira une belle histoire. Oui. Voilà. Donc, c'est... Bon, j'ai travaillé plus particulièrement sur Max Rouquette pour ce qui me concerne, parce que l'ayant bien connu, l'ayant entendu dire fréquemment, vous évoquiez ce qu'il disait en 52, mais j'ai recensé une dizaine de textes, je ne les ai pas tous édités, mais une dizaine de textes qu'il a écrits, qui se présentaient comme informatifs, à propos des troubadours. Et chaque fois, c'était, par exemple, un titre, « La langue d'oc au printemps de l'Europe ». Vous voyez, cette langue d'oc comme source de toutes les lyriques de l'Europe, ce qui est en grande partie vrai. Et ça, il ne cessait de le dire, parce que, si vous voulez, ce qui se passe pour l'écrivain occitan du XXe siècle, il écrit une langue qu'il connaît, qu'il parle, mais qui, depuis très longtemps, a perdu dans le peuple sa place, Et quand elle, était encore parlée, au temps de Max Roquette, elle était encore parlée dans le village où il habitait, mais ceux qui la parlaient, la langue, n'avaient absolument pas conscience de sa dignité, parfois même avaient honte de la parler, puisqu'ils ne l'avaient transmettaient pas à leurs enfants. Donc pour ces écrivains qui choisissent cette langue, ils ne peuvent pas s'appuyer uniquement sur la nostalgie, sur la langue du papé ou du... ça arrive, hein, ou du village, ou de la chasse, ou du souvenir. La plupart d'entre eux se trouvent des raisons d'adopter cette langue méprisée. Pour mémoire, l'expression lingo mesprezado a été utilisée pour la première fois au XVIe siècle par Pey de Garros.
Ah oui.
Pour vous dire qu'il y a...
Oui, c'est une vieille,
très
une vieille histoire.
Et la deuxième fois, même expression, utilisée par Mistral dans Mireille, en 59.
Oui.
Car quand Bolic en glori fugausado per nostro lingo mesprezado, je veux qu'elle soit aussi en gloire pour notre langue méprise, par notre langue méprisée. Autrement dit, le sentiment du mépris de la langue, du mépris social, il est partagé, y compris par les écrivains qui choisissent d'écrire dans cette langue. Et pour lutter contre cette... C'est pas une impression, pour ce mépris réel, un des moyens, il y a plein de moyens, il peut y avoir le moyen de dire, voilà, c'est la langue des humbles, je me mets aux côtés du peuple et je parle la langue du peuple. L'autre moyen, c'est, cette langue méprisée, elle a eu des grands modèles. Et ce moyen-là, cette justification, dont ont toujours besoin les écrivains occitans. Quand on écrit en français, ou en espagnol, ou en anglais, on n'introduit pas dans son texte une justification du choix de l'anglais, de l'espagnol, de l'anglais, ou du français. Par contre, quand on écrit en occitan, l'écrivain occitan va pratiquement toujours glisser quelque part une phrase dans laquelle il se croira obligé de se justifier. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment. Et donc, pour Max Roquette, il y avait, au niveau littéraire, puisqu'il se revendiquait aussi du peuple. Mais au niveau littéraire, il y avait deux justifications. La première, en date, c'était Mistral. Il raconte, il a très souvent raconté oralement et par écrit, que quand il avait 12 ans, son père et lui ramassaient de l'herbe pour les lapins, et à un moment, en cueillant des liserons, son père s'est mis à réciter une strophe de Mireille, dans laquelle on parlait des pleurs des joues de Mireille qui s'effaçaient comme le matin la rosée sur les feuilles des liserons. Et Max raconte que cette strophe de Mireille l'avait tellement ébloui, il avait 12 ans, qu'il avait décidé que dorénavant il n'écrirait que dans cette langue. Alors, bon, c'est ce qu'il nous dit. On n'est pas obligé de le croire, mais le fait qu'il ait répété à plusieurs reprises ce récit fondateur, déjà lui donne une valeur, vraie ou fausse, peu importe, mais ce récit fondateur existait. Et le deuxième récit fondateur, c'est les troubadours. Voilà, donc c'était cette gloire européenne des troubadours, ce texte sublime, selon lui, son existence justifie qu'on adopte l'occitan comme langue d'écriture au XXe siècle.
Alors il y a deux choses, Mistral, c'est le Philippe Rige, et il faut rappeler qu'il a eu quand même prix Nobel de littérature. Il n'y a plus après d'écrivain occitan.
On a tenté pour Max Roquette et pour... Mancier, je ne pense pas. Par contre, il a été question de Max Roquette et de Robert Laffont. Et il y a eu des tentatives, il y a eu un comité qui s'était créé pour le prix Nobel à Max Roquette, avec y compris des amis suédois occitanistes qui s'y employaient. Mais malheureusement, la tentative a échoué. Max était très malheureux, il y croyait. Pas pour lui, parce que il ne cherchait pas la gloire. Sans chercher la gloire, il avait conscience de la valeur de son œuvre, qui est immense, qui est magnifique. Et ça, il le savait que son œuvre avait une grande valeur. Et il aurait aimé que cette valeur soit reconnue par un prix de cette sorte. Mais pour moi qui lis la littérature française et la littérature occitane, des Roquette, des Laffont, leur langue d'écriture aurait été le français, ils auraient été nobélisables sans problème. Sans problème, ils sont de l'étoffe très grande.
Vraiment bien dire et bien faire comprendre, hein, c'est qu'il n'y a pas là d'écrivains mineurs par rapport à d'autres, surtout pas.
Non.
Hein.
Non.
Alors, on peut rappeler qui était Max Rouquette quand même, il est né en 1908, hein, ce qui explique l'histoire de son père avec Mistral, donc ce qui veut dire quand même que l'influence de Mistral à cette époque-là a été quand même.
Elle a été importante. Entre autres, il y a une chose que j'ai apprise par des esthètes, c'est vrai. Donc, il a eu le prix Nobel. Et les écoles normales instituteurs, leur bibliothèque avait une dotation commune partout en France. Et dans la dotation commune, on leur mettait des prix Nobel. J'ai appris ça par des instituts. Ce qui fait que dans les écoles normales, il y avait Mistral.
Oui.
Et donc beaucoup de gens ont accédé à Mistral comme ça. On a pas mal d'écrivains qui sont aussi instituts ou profs, mais qui sont passés par les écoles normales. Et puis c'est vrai que Mistral a été édité et réédité. Et Mistral circulait, contrairement à d'autres, mais il circulait.
Oui. C'est aussi le Félibrige, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'était de la phonétique. Donc là aussi.
Alors, est-ce que vous parlez de la graphie de Mistral.
Voilà. Est-ce que c'est plus
alors, facile avant Mistral, si vous voulez, il y a eu toute une période où la graphie unifiée des troubadours s'était perdue.
Oui.
Les écrivains écrivaient comme ils pouvaient, avec des écoles. Par exemple, les Gascons avaient une manière d'écrire, les Toulousains aussi. Je parle des Gascons du Béarn. Hein. Ça c'était à l'époque au XVIe. Après, pendant toute une période, la mémoire de graphie un petit peu cohérente s'était perdue, et les écrivains écrivaient comme ils le pouvaient, selon la prononciation locale, sans avoir souvent conscience de l'unité de la langue. Donc sans chercher une graphie qui puisse leur permettre d'être lue d'un endroit d'Occitanie à l'autre. Et ce qu'a fait Mistral, c'est qu'il a voulu créer une graphie unifiée. La première graphie unifiée, dont les détracteurs disent qu'elle était phonétique. Moi, je serais plus nuancée, elle n'était pas si phonétique que ça. C'est vrai qu'elle était davantage calquée sur le français que n'est la graphie que nous utilisions en occitaniste. Mais elle avait quand même au moins comme mérite d'être cohérente, d'avoir une norme, un dictionnaire, une grammaire, et d'être cohérente pour plein de gens. C'est un petit peu ça la graphie de Mistral. Mais elle a au moins permis de donner à plein d'écrivains une graphie commune et des règles que chacun respectait. Parce que le problème graphie phonétique, c'est toujours complexe. Hein. Dès lors qu'on adopte une graphie, on fait des choix. Et quand on fait des choix, on frustre. On choisit telle ou telle chose par rapport à telle autre.
Oui. D'ailleurs, la semaine dernière, avec Alain Monsieur Garcia, nous avons lu du Provençal de Andreu Resplandé.
Oui.
Et effectivement, Alain disait, il était un peu perdu dans le. Dans cette graphie.
Je vais vous dire, comme moi, si vous me faisiez lire du Gascon, à mon avis, c'est pas seulement une histoire de graphie. C'est que quand on est à Montpellier, on n'est pas loin de la Provence et on connaît bien la Provence.
Oui.
Ce qui fait que nous sommes habitués à lire les deux graphies, mais alors sans aucune hésitation. En revanche, pour moi, il est plus compliqué d'accéder au Gascon, même si bien entendu je le pratique pas, je le comprends, je le lis sans problème, à voix basse. Le lire à voix haute, j'ai beaucoup plus de difficultés que pour lire du Mistral. Moi, Mistral, je le lis à livre ouvert, mais alors lire du Mistral ou lire du Max Rouquette, c'est pareil pour moi, aucune difficulté. Lire du Bancier me fera problème. Oh, à voix haute, j'entends bien.
Hein. Oui, si vous voulez, le
voilà.
Gascon.
On est, si vous voulez.
C'est le quintessence de la langue gascon. Hein. Eric Rage a écrit un livre là-dessus.
Qui
Eric Rage, hein,
quel
Occitan per deman, hein,
oui.
Quel Occitan pour demain, où il pose ces questions. Et c'est des questions très pertinentes. Bon,
oui.
Ça pourrait faire l'objet d'une émission.
Oui.
Parce qu'effectivement, ça fait partie peut-être aussi. des handicaps, disons, pour que la langue occitane aussi rayonne avec l'ampleur qu'elle devrait avoir?
Écoutez, je sais pas. Ce que je sais, c'est que quand on veut avoir une norme commune, il faut avoir derrière une académie, un pouvoir. Voilà, on l'a pas. Donc on fait avec les moyens du bord. Et par ailleurs, il me semble qu'on a trouvé un moyen terme entre une norme unique, sclérosante et uniformisante, et le bazar absolu où chacun écrit et parle comme il veut. Qu'on nous laisse les moyens d'écrire, d'enseigner, qu'on nous fasse, qu'on nous rende présents, comme vous le faites dans les médias, à la télé, que nos transports en commun et l'occitan écrit et oral, que nos journaux mettent un peu d'occitan, et la langue circulera. Voilà. Bon, moi je trouve qu'on a trouvé un moyen terme entre l'uniformité absolue et le bazar complet. On fait comme on peut. Mais bon, on est loin des troubadours, là. Je ne sais pas lequel d'entre nous s'est éloigné des troubadours, mais...
Non, mais on se rattache toujours à la langue occitane.
Oui.
Alors, pour revenir donc sur les troubadours, on va, si vous le voulez bien, vous allez nous rappeler de quel mot provient troubadour, donc de troubard,
oui. Hein, oui.
Et ce qu'est le troubard.
Alors, troubadour, ça vient de trouba, qui veut dire trouver, inventer. Donc le troubadour, c'est celui qui invente. Contrairement justement à la légende de Bébête, que ce serait le mec qui va de château en château interpréter des chants, non, ça c'était le juglaire, le jongleur. Voilà. Les préjugés français confondent le jongleur, l'interprète, avec le troubadour qui est le trouveur, celui qui trouve. Hein. Ça vient de l'accusatif troubadorem, hein. Le français trouver venant du nominatif. Voilà, et donc c'est celui qui trouve, celui qui invente. Le troubadour qui a inventé le mot et le son, c'est-à-dire le texte et la musique, puisqu'il était également compositeur.
On n'était pas tellement éloigné tout à l'heure quand nous parlions de cette fragmentation de la langue d'oc, parce que Max Rouquette y voyait peut-être une des faiblesses. C'est ce qu'il disait, hein, je crois.
Vous avez vu ça dans le livre ?
Oui, je crois, oui. Oui, oui.
Ah, bon, là, tout à coup, j'ai un petit trou, je me rappelle.
Alors, attendez, je vais essayer de retrouver.
Oui.
Oui. Puis, Rouquette.
Quelle page ?
Alors, c'était la page 197.
Alors, j'y vais.
Enfin, à l'époque contemporaine.
Ah oui, je crois que je me rappelle maintenant.
Voilà, où dit-il, l'effritement dialectal et la perte de conscience de l'unité de la langue sont un obstacle à la prise de conscience de la valeur de cette langue par le peuple.
Oui.
Qui la parle et qui sut la garder à travers les siècles.
Oui, voilà. Oui. Oui. Et 197, j'ai le...
Voilà, il dit, voilà, de
c'est
ça,
c'est
on est passé...
C'est la dernière, hein? Là c'est laquelle de... Page 197, vous le voyez où le... Ah oui, j'y suis.
Il dit, c'est comme ça qu'on aboutit au patois, quoi.
Oui, tout à fait, hein? Tout à fait, voilà. Oui. Oui. Ouais. Oui, c'est un regret, oui, parce que voilà, alors là, je réatterris, excusez-moi. Max Rouquette avait une très haute idée de la langue, une très haute exigence, et là, je le rejoins. Moi, je suis irritée quand on veut, avec l'occitan, faire des choses populistes, ça m'irrite, parce que je suis fille du peuple, je suis fille de paysan, et chez moi, on se respectait, on se tenait, on ne confondait pas peuple et vulgaire. Et c'est vrai que Max Rouquette avait cette exigence de dignité. Je me souviens d'une chose qu'il me disait. Il parlait de quelqu'un qui était un peu vulgaire. Il disait « quand une passe-frasse ». C'est pas un pâtre. Pâtre, c'était noble. Mmh. Une passe, c'est noble. Mais une passe-frasse, c'est celui qui joue au berger et qui est finalement vulgaire. Ça, c'est vrai qu'il avait cette haute exigence de dignité pour la langue et pour la culture qu'elle porte. Ça, c'est vrai.
Il était mon père a été médecin à la sécurité sociale à Narbonne au moment où lui était médecin à la sécurité sociale
à Montpellier
oui, oui. Mm. Et il en parlait vraiment avec beaucoup d'admiration et de c'était quelqu'un aussi qui était qui avait un aspect humain d'une grande bonté, quoi. C'est ça.
Oh, je suis pas si d'accord là. Il pouvait être féroce. Oui. Oh là là, il valait mieux être son ami que son ennemi, parce qu'il avait l'art. Oui. Mais bon, j'en ris parce qu'il se plantait pas beaucoup sur les ennemis. Mais quand il voulait dégommer quelqu'un en deux coups de plume, il était féroce. Mais alors, il était, pour parler de ce Passeraf, par exemple, oh là là. Et puis, quand on voit sa correspondance ou même ses textes, par exemple, dans un autre article, j'ai travaillé sur la revue Occitania, dont il s'occupait dans les années 30 à 40. Et il écrivait des pastiches d'écrivains. Et il avait l'art de se moquer des gens qu'il n'aimait pas, mais alors c'était d'une... Bah, il était d'une cruauté quand il n'aimait pas les gens. Ah, terrible. Et ça faisait mouche parce qu'il avait une plume extraordinaire. Une plume et puis aussi une aisance orale. Hein, parce qu'il parlait exactement comme il écrivait, hein, avec autant d'élégance et d'aisance. Et pratiquement jusqu'au bout, 6 mois avant sa mort, on l'avait encore vu à Montpellier, et il n'avait pas du tout perdu la tête. Hein. Non, c'était quelqu'un d'exceptionnel.
Je crois que beaucoup d'Occitanistes, on leur feront parler comme ça, et je pense à Castan, je pense aussi à Manciette. Hein,
oui, bah oui. Ça. Oui, c'est clair.
Alors, pour la poésie des troubadours, c'est une poésie qui va être une poésie extraordinairement vivante, hein, comme toute poésie authentique, hein, faite donc pour être dite, hein, et donc qui va être faite pour le chant.
Là, vous parlez de la poésie des troubadours.
De la troubadour des troubadours, oui.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce que on peut pas dissocier la poésie des troubadours de la musique?
Alors, je précise quand même que je ne suis pas médiéviste. Hein. Oui. Moi, je suis contemporanéiste. Donc, ce que je sais sur les troubadours, c'est ce que le commun des mortels sait, peut-être un petit peu plus, mais je ne voudrais pas dire des choses approximatives. Par contre, ça, je sais que pour les troubadours, le mot et le son étaient indissociables. Ils étaient effectivement, ils travaillaient sur les deux. Et d'ailleurs, dans une préface qu'a faite Max Rouquette au livre de Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto, c'est un interprète des troubadours qui habitait au doigt. Et Max a préfacé un de ses livres sur les troubadours. Et Max dit, on a trop négligé le fait que les troubadours étaient aussi des compositeurs de musique. Ça, c'était absolument indissociable. On ne pouvait pas, mais bon, les mélodies se sont en partie perdues. Mais ils étaient effectivement interprètes en même temps qu'ils étaient écrivains. Voilà.
Donc...
Mais si vous voulez ça, au niveau du... sur les écrivains sur lesquels on a travaillé, l'aspect du chant n'a pas été étudié en tant que tel, parce que c'était pas des musicologues qui étaient là. L'idée, c'était, on prend les poètes et plus généralement les écrivains occitans du XXe siècle, et on essaye de voir quelle place a le texte des troubadours dans leur œuvre. Moi, l'idée m'était venue de ce colloque parce que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Jean Boudou, écrivain aveyronnais, et Jean Boudou fait intervenir le troubadour, entre autres, dans le livre des grands jours, un de ses romans, et aussi, il a plusieurs poèmes qui s'appellent Albo. L'Albo, c'est un genre troubadouresque, dans lequel, c'est toujours la même histoire, hein, il y a un homme et une femme qui sont ensemble, qui sont amants, ils ne sont pas légitimes, et à l'aube, la gaïte, le guetteur, les prévient que le djilous, le jaloux, le mari, arrive, ils doivent se séparer à l'aube. Donc c'est un genre troubadouresque, et Boudou a écrit plusieurs albums. Donc ça m'avait beaucoup marqué, ça. Et j'essayais de voir avec mes collègues médiévistes pourquoi il y avait cette vision, cet intérêt de Boudou pour les troubadours, dans quelle mesure il les connaissait bien, dans quelle mesure il prenait la distance par rapport à eux. Et donc ça a été un petit peu le déclencheur. Et puis ensuite, quand on a voulu faire venir les collègues, et puis on a fait un large appel dans les écrivains du XXe siècle sur lesquels vous travaillez, pouvez-vous présenter leur rapport au troubadour. Et c'est comme ça qu'on a eu des interventions sur, bon, vous avez dit Nelly, Max Rouquette, Lafont, Serge Beck, Pierre Beck, Michel Minucci, qui est un peu moins connu, qui est un écrivain varois, qui est mort très jeune, il avait une quarantaine d'années quand il est mort, hélas. Mouza et Grenier, qui sont deux écrivains limousins, Et ça, c'est important parce que les troubadours, le trouba est né en grande partie en Limousin. Au Moyen-Âge, l'Occitanie était, elle n'était pas seulement limousine, mais elle était grandement limousine. Le centre d'attraction s'est déplacé ensuite vers le Languedoc et la Provence, mais au Moyen-Âge, le Limousin était vraiment un grand centre d'attraction. Et comme par hasard, deux grands écrivains limousins du XXe siècle, Grenier et Moussa, ont été inspirés par les troubadours. Prosper Estieux, Audouard, qu'est-ce que je vois encore alors, Julien Drépet, c'est encore une autre chose, Denis Saourat, Grenier, qu'est-ce que je vois oui, Léon Corde, écrivain de Minerve dans l'Aude. Non, Minerve, c'est dans les Roues, dans l'Aude. Vous qui êtes aux Audois.
C'est dans les Roues.
Voilà, mais qui est entre les deux. Hein. Robert Laffont, évidemment, qui a été notre maître à la fac. Hein. Ouais. Donc, voilà, quelle place avaient les troubadours dans ces œuvres-là?
Alors, qu'est-ce qui va réunir tous ces écrivains contemporains, disons, la plupart d'ailleurs ne sont plus de ce monde, hein, quand même.
Oui et non, parce que il y a une intervention sur la place des troubadours dans la chanson des fabuleux troubadours, justement, une mafia sans système. Ils sont tout à fait de ce monde. Et à Montpellier, il y a c'était pas l'objet d'aujourd'hui, mais il y a un groupe de jeunes chanteurs qui s'est créé, qui s'appelle Doctour des Troubas. Les docteurs du trouba.
Oui.
Là, non, ils ont 30 ans.
C'est pas ce que je voulais dire, hein. Je voulais dire de l'étude qui a été menée là sur.
Oui, voilà. Ils sont présents là. Il y a une communication sur la musique contemporaine à la fin. Hein, à la fin.
Oui.
Qu'est-ce qui les réunit? Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui les réunit. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai réuni les contributions de mes collègues, c'est la diversité des écrivains intéressés par les troubadours. Et la diversité également de ceux qui les intéressent chez les troubadours. Pour certains, ce sera imiter une forme poétique, par exemple la sextine, qui est un genre poétique, je ne vais pas le décrire ici, c'est un peu complexe, mais c'est un genre poétique qui était utilisé entre autres par Arnaud Daniel. Eh bien, la sextine a inspiré Robert Laffont, par exemple, ou Pierre Beck. Et là, c'est la forme poétique qui les intéresse. La sextine voit revenir les mêmes mots rimes d'une strophe à l'autre. C'est un exercice de virtuosité. Eh bien, voilà, ça a intéressé ces écrivains. Et Max Fouquet a fait aussi des jeux comme ça. Là, ce qui l'intéressait, c'était la virtuosité formelle plus que le thème. Pour d'autres, Serge Beck, ce sera l'amour idéal, la dame. Serge Beck, qui n'a aimé qu'une femme toute sa vie, Anne, eh bien, quand il célèbre Anne, c'est la dame qu'il célèbre. La dame idéalisée. Donc là, ça sera le thème. Voilà. Donc
c'est,
il y a
un courtois là. C'est une. Est-ce que c'est
quelque chose comme ça, oui.
Voilà.
Donc ce qu'ils vont chercher chez les troubadours, c'est des choses très 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 diverses, très très diverses. C'est à la fois une justification plus ou moins consciente qui correspond à ce besoin de justifier un choix de langue méprisée. C'est des thèmes. Pour Max Fouquet, c'est aussi une espèce de rêverie sur les paysages. Il se trouve que pas loin de chez nous, là, il y a le château de Melas, où était passé Guillaume. J'ai un trou tout à coup sur le troubadour. Guillaume d'Orange, si, je crois bien. Enfin, un troubadour célèbre qui était passé par ce château de Melas. Eh bien, il va imaginer que dans ce lieu, qui est encore. Il n'est pas entier, mais on peut le voir. Il va imaginer le passage du troubadour, il va le faire revivre. Donc c'est plutôt un motif de rêverie sur les lieux. Et il va imaginer le troubadour dans la gelée, dans un matin de gelée blanche, errant sur ce paysage. Donc c'est des lieux qui lui paraissent habités par l'esprit de ces troubadours qui sont passés par là. Donc il y a chaque écrivain est allé prendre dans les troubadours des choses différentes. Boudou, alors là, les interprétations se discutent. Pour une de nos deux collaboratrices, Élodie de Oliveira, pour Boudou, c'est la dérision. C'est montrer que finalement, tout ce que les troubadours avaient construit de poésie courtoise et autres, Boudou le tourne en dérision parce qu'il est dans cette espèce de cynisme, elle l'appelle gothique. Je ne suis pas complètement d'accord avec elle, même si je pense qu'elle a ouvert des perspectives en montrant que Boudou avait pris la distance par rapport au troubadour et qu'il était entre distance et admiration. Mais pour vous dire qu'il y a une variété totale d'inspiration. Pour Léon Corde, il part de Minerve, cette ville fortifiée qui a été un des sièges de la croisade des Albigeois, un des sièges au deux sens du terme, puisque les croisés ont fait le siège de Minerve et l'ont prise. Et donc Léon Corde part de cette ville, et c'est à partir du lieu qu'il va rêver et reconstruire le passé. Et il écrit une pièce qui s'appelle Minerve 1210, Minerve 1210, dans laquelle il réécrit de manière littéraire ce qu'a été le siège de Minerve, en remettant des acteurs, en les faisant parler. Et cette pièce a été jouée du temps où Léon vivait encore, deux ans avant sa mort, et mise en scène par son fils, Michel Corde. À l'époque, j'étais prof en Lorraine, je n'ai malheureusement pas pu y aller, mais il y a eu 10 000 spectateurs qui se sont succédés à Minerve, sur les lieux mêmes où le drame s'était produit. Et Léon Corde, par exemple, dans cette pièce sur Minerve, met à la fois des textes des troubadours de l'époque, et inclut le chant du bouillet, qui est un chant folklorique. Ça veut dire qu'il mêle une origine de littérature savante et une inspiration populaire. Et ça aussi, c'est une caractéristique que beaucoup d'écrivains partagent, occitan, j'entends, oui. Cette double source qui les inspire, qui est à la fois une source populaire, proverbes, contes, légendes, chansons, romances, à la manière du terme espagnol, qui a fait le romancero gitano de Lorca. Donc ces chants traditionnels qui circulaient par l'oralité. Donc ils ont réussi à faire un syncrétisme entre l'inspiration populaire et l'inspiration savante des troubadours. Donc c'est difficile de dire ce qui les a inspirés. Chaque article du livre et chaque écrivain apporte une réponse différente à la question que vous posez.
Ce qui fait que c'est quand même assez complexe. Je voulais, mais je ne sais pas si on va avoir le temps, puisqu'il nous reste là quelques 5 minutes. J'interroge notre Claude. Je voulais parler de cette fameuse querelle des troubadours de Sully et André Peyre,
oui.
De 1930 à 1960.
Oui.
On l'a un petit peu abordé tout à l'heure avec les problèmes de graphie.
Alors, Sully et André Peyre, c'est un admirateur de Mistral. Oui. Pour lui, c'est le maître. Et les troubadours, c'est rien. C'est rien. Donc, c'est longuement développé par Philippe Gardy, les raisons, la façon dont ça se produit, mais voilà, il a absolument voulu réduire au maximum l'influence des troubadours, enfin, l'importance des troubadours, puisque pour lui, le maître, c'était Mistral. Voilà. Les raisons, n'ayant pas relu cet article depuis longtemps, je ne les ai pas en détail, mais il fait partie des rares, qui ne veulent pas se revendiquer des troubadours. Et alors que Mistral les connaissait, et Aubanel est un des fondateurs du Félibris avec Mistral, Aubanel qui a écrit une très belle œuvre qui s'appelle La Miougrane entrée d'Hubert, La Grenade entrouverte. Dans la Miougrane entrée d'Hubert, chaque poème d'Aubanel est ouvert en exergue par une strophe de troubadour. Ça veut dire que les primadiers, ça veut dire les premiers. Les fondateurs du Félibris, eux, en tout cas Aubanel c'est sûr, se revendiquaient des troubadours. Mais Sully et André Peyre, non. Cela dit, Sully et André Peyre était à la fois un grand écrivain et une personnalité, je ne peux pas dire isolée, mais oui, il avait sa revue, Marsillas, ses éditions aussi, et il a toujours été très singulier, ne voulant pas s'attacher à une école en particulier. Il n'était pas proche du Félibris, par exemple, bien qu'étant mistralien. Hein. Donc, il est avant tout, Sully et André Peyre, émule de Mistral. Et pour ça, les troubadours, ça ne pouvait pas passer. Ça aurait été un concurrent trop...
Il dit, pour une culture provençale, les troubadours pauvres et mornes, oui, le compte-guerre.
Oui.
Il y a eu de la croisade contre les albigeois, qui ne fit que donner le coup de grâce à une littérature moribonde.
Voilà.
Non, au miracle de Mireille, six siècles d'éclipse. Mistral est le vrai commencement de la langue provençale.
Et voilà.
Voilà. Mais il aurait ensuite fallu que, par droit de chef-d'œuvre, la langue de Mistral s'imposa à tous ceux qui, de la Loire à la mer, des Alpes aux Pyrénées, choisissaient de ne pas écrire en français et qui auraient alors disposé d'un moyen d'expression et d'un public couvrant à peu près la moitié de la France.
Oui.
Hein, révolution littéraire et culturelle qui naît. Alors, effectivement, il y a eu ce mouvement, je crois que c'est... Bon, il fallait dire
c'est
aussi...
C'est pas un
que...
mouvement, c'est celui à Auré-Paye. Hein.
Oui, c'est tout. Oui.
C'est celui à Auré-Paye, c'est vraiment lui. Hein, ouais. Parce que
il n'a pas
moi,
été
je
suivi,
n'ai...
Alors.
Pardon ?
Il n'a pas du tout été suivi, lui.
À ma connaissance, non. Oui. Je veux dire, soit on connaît mal les troubadours,
oui.
Ça peut arriver, mais ceux qui les lisent, moi je n'en connais pas d'autres qui aient suivi, on peut plus ou moins aimer, hein, mais je ne connais que celui d'André Père qui est affirmé avec autant de virulence, vous l'avez bien lu. Hein,
oui, oui, c'est étonnant, hein, j'avoue que...
Cette absence d'intérêt des troubadours.
Oui.
à ses yeux.
Alors, je crois
mais
que...
Mais bon, c'est intéressant d'en parler.
Oui.
Parce que c'est bien aussi de montrer que les choses ne sont pas uniformes.
Voilà, c'est ça. C'est absolument. Alors, par contre, effectivement, vous en aviez parlé tout à l'heure de ce mouvement qui est né à Marseille, le groupe Massilia Sous le Système.
Oui.
Donc là... qu'il continue, qu'il perpétue dans la création occitane, et avec, bien entendu, là, on va retrouver le son, la musique.
Tout à fait, voilà. Tout à fait.
Donc, et ça, c'est actuel, c'est-à-dire que ce son, c'est aujourd'hui.
Oui, mais il y a aussi sur Montpellier le groupe Mahoresque, qui est dans la même ligne.
Oui.
Et le groupe Mahoresque, ça a été mes étudiants de licence d'Occitan. Oui. Et ils étaient au premier rang, je me rappelle, et ils étaient très agités tous les deux. Là, et je leur demande ce qu'ils faisaient à s'agiter comme ça. Ils étaient en train de mettre en rap un texte que je leur expliquais en cours.
D'accord.
Voilà, je veux dire qu'ils avaient... cette envie de mettre en musique.
Oui.
Oui.
Et c'est une continuation du Fin Amour. Ou pas?
Alors, Sylvain Chabot, qui a étudié cette littérature, parle de la Fin Amour, d'une part, mais aussi de la Tensu, qui est une dispute entre deux troubadours qui échangent sur un propos, des propos qui peuvent être très variés.
Oui.
Voilà. Donc tous ces genres-là sont utilisés, oui, oui.
Ouais. Alors, tout ceci est passionnant. Je rappelle le titre de l'ouvrage « Les troubadours dans le texte occitan du XXe siècle » au classique Garnier, études et textes occitans. Il y a une chronologie qui est très intéressante parce que ça permet vraiment de bien situer de 1885 jusqu'à nos jours ce qui s'est passé dans cette littérature-là. Hein.
Oui.
Ça c'est bien parce que on ne trouve pas facilement. Donc,
je vais vous dire, moi je rends hommage à la collection.
Oui,
n'ai fait que suivre un plan qu'on m'a donné. Hein.
C'est précieux hein, comme instrument.
Ah, c'est très précieux.
Ah, oui,
même
vraiment.
Pour moi, vous voyez.
Et
parce que quand j'ai fait ce montage, j'avais demandé à chaque auteur de me donner sa chronologie et après j'ai dû le redisposer chronologiquement.
Oui.
Eh bien, moi-même j'ai appris des choses. Oui. Cette mise en perspective chronologique,
c'est très précieux.
Oh,
très intéressant. Et on ne le trouve pas ailleurs, hein, vraiment. Et puis il y a une bibliographie aussi qui permet d'avoir une connaissance donc un peu exhaustive de tout cela. Voilà. Alors, comme on a eu à peine le temps, en fait, ça passe vite, une heure, hein, de l'évoquer, là, on s'est un peu fixé sur Masrouquette, on aurait pu parler, bien entendu, de Nelly, et de bien d'autres, hein. on voit véritablement une grande diversité quand même, et surtout, s'il y a un foisonnement de diversité, etc., c'est que il y a une influence, à mon avis, qui est incontestable.
Oui.
Les troubadours dans... voilà. Et je crois que ça, c'est ce qui pouvait arriver de mieux.
C'est sûr.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci de votre invitation et merci d'avoir consacré une heure à ce modeste ouvrage.
Alors, vous pourrez réécouter cette émission, bien sûr, sur notre site les-poètes.fr. Et puis, bien entendu, cette émission sera adjointe d'un compte rendu un peu plus détaillé où toutes les références de ces publications seront citées. Voilà, je vous demande simplement d'être un peu patient parce que j'ai pris, et Claude me fait signe que oui, j'ai pris un peu de retard dans ce travail-là. Voilà, merci beaucoup, Marie-Jeanne Verny, à très bientôt.
Al-Kop-Keben.
Et Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente nuit à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, Adichast.
Au revoir.
Ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont des drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons.